Nous avons déjà réfléchi un petit peu, mais je vous invite encore à penser pendant quelques minutes au monde dans lequel nous vivons. Réfléchissez non seulement à ce qui se passe en ce moment, mais réfléchissez à tout ce qui s'est passé dans notre monde ces 100 dernières années. Il y a 100 ans, je ne parle pas simplement des choses mauvaises, il y a 100 ans, qui aurait pu imaginer un smartphone? Qui aurait pu imaginer un homme sur la Lune? La chirurgie faite par des robots. Des voitures qui n'ont pas besoin de chauffeur. Ce serait facile de penser que notre monde est magnifique. Il y a des choses magnifiques dans notre monde. Pourtant, nos prisons sont pleines à craquer. Il y a de plus en plus de violence dans la rue et dans les foyers. Le XXe siècle a été le siècle le plus sanglant dans l'histoire de l'humanité. On a de plus en plus de choses pour nous rendre heureux, mais on est de moins en moins heureux. On pourrait dire que l'histoire de notre monde est une histoire d'épouvante. Et comment comprendre tout cela? Comment expliquer la brillance et l'horreur en même temps? De nombreux livres et de nombreux articles ont été écrits pour essayer d'expliquer notre monde. J'en ai lu plusieurs, mais aucun de ces livres, aucun de ces articles ne réussit comme le livre devant nous ce matin. Je ne dis pas que les philosophes et les psychologues disent toujours des bêtises. Je ne dis pas ça. Il y a souvent de la vérité en ce qu'ils disent. Mais si nous voulons bien comprendre le monde dans lequel nous vivons, c'est là où nous devons commencer. C'est là où nous devons chercher des réponses. Un livre écrit il y a 3500 ans. C'est intéressant, n'est-ce pas, que pour comprendre le monde actuel, nous nous tournons à un livre, à des paroles écrites plus de 3500 ans. Et ce livre décrit parfaitement notre monde, parfaitement. Vous allez le voir, c'est un livre honnête et réaliste. Et comme j'ai dit par le passé, ce que nous allons voir ne sera pas agréable à voir, agréable à méditer. Nous allons nous voir encore une fois dedans. Nous allons voir un monde qui est décrit dans le verset 16. Caïn sorti de la présence de l'Éternel. Un monde où les hommes et les femmes choisissent de sortir de la présence de l'Éternel. De vivre sans Dieu. Nous allons voir un monde sans Dieu. Et en regardant ce monde, la première chose que nous voyons, c'est un monde, peut-être bizarrement, un monde heureux et prospère. Ce serait beaucoup plus facile pour le croyant de regarder le monde où Dieu est absent et Dieu est exclu et de ne voir que des choses négatives. Comme ça, on pourrait dire, « Ah, vous voyez ce qui se passe quand vous abandonnez Dieu? Vous voyez ce qui se passe quand vous vous tournez le dos à Dieu ?» C'est la catastrophe, mais ce n'est pas le cas. Ce serait beaucoup plus facile pour nous, les croyants, de dire ça. Rien de bien, rien de positif. Vous abandonnez Dieu, voilà ce qui se passe. Ce n'est pas le cas. Dans les versets 17 à 22, nous voyons beaucoup de choses positives. Des choses qu'il faut applaudir, des choses qu'il faut louer. Dans le verset 17, nous voyons une vie de famille. Caïn connut sa femme, elle devint enceinte. Caïn, il vient de se tourner le dos à Dieu, il vient de quitter la présence de Dieu, mais là, il a une vie de famille normale, bénie. Malgré le fait d'avoir tué son frère, malgré le fait d'avoir rejeté Dieu, il est fort probable que Caïn est un très bon mari, un très bon père. Il veut bâtir une ville. Il semble avoir le désir de donner de la stabilité, de la sécurité à sa famille. C'est une bonne chose. Il semble avoir une vie de famille normale, bénie et prospère. Et du verset 20 au 22, nous voyons que les descendants de Caïn sont dotés des capacités extraordinaires. Les trois enfants de Lémec sont mentionnés dans ces versets. Verset 20, si vous regardez. Il y a Yabal. C'est lui l'ancêtre des éleveurs nomades. Il est le père des agriculteurs à grande échelle. Avant, il y avait Caïn et Abel qui étaient agriculteurs. Mais là, c'est l'agriculture à grande échelle. Il est le père des commerçants. Je sais que certains d'entre vous, vous étiez commerçants avant. Yabal, c'est votre arrière-grand-père. Voici les origines du monde de commerce. Et puis dans le verset 21, il y a Yubal. C'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et de la chalmo. Il est le premier musicien. Voici le père du monde de la culture et des arts. Tout ce qui rend la vie plus agréable. On n'a pas besoin de musique, mais ça rend la vie plus agréable. Il est doté d'une créativité dont il se sert pour rendre la vie meilleure pour tout le monde. Voici le père de Mozart, de Molière, de Picasso, même de Johnny Hallyday. C'est le père. Et puis, le verset 22, on a Tubal-Caïn, et lui qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. Voici le commencement de l'industrie lourde, de la fabrication des outils pour rendre le travail moins pénible, moins dur. Il faut ajouter aussi pour produire les armes. Mais ce sont des exploits. Et chacun de ces trois noms viennent du verbe « produire ». Ce sont des gens qui ont fait des exploits. Et nous voyons ces pionniers dans le domaine respectif. Nous devons reconnaître l'énorme contribution qu'ils ont faite à l'avance de la civilisation humaine. On ne peut pas simplement dire « Ah, les hommes uniques, c'est terrible ». Non, ces hommes ont beaucoup contribué à la civilisation humaine. Le monde a bien profité de leurs compétences et leur ingéniosité. Et tout ça grâce à des hommes qui avaient rejeté Dieu. Donc nous reconnaissons tout ce que l'homme incrédule peut faire, même après avoir rejeté Dieu. Et nous le voyons encore de nos jours, nous devons l'admettre. Nous reconnaissons des hommes et des femmes brillants, brillants, dans les domaines de la technologie, la science, la médecine, la culture, des arts. Et nous remercions Dieu pour ces hommes et ces femmes doués. Nous remercions Dieu pour les choses qu'ils ont inventées. Nous profitons de ce qu'ils ont inventé. Nous ne vivons pas dans un monde où nous disons « Ah non, ça n'a pas été créé par un chrétien, je ne vais pas me servir de ça. » Non. Vous ne posez pas la question avant d'acheter une voiture « Est-ce que la voiture a été créée ?» Non, non. Nous profitons de ces choses. C'est don que Dieu a donné. Cependant, les avances merveilleuses dans de nombreux domaines ne servent pas à cacher une sombre réalité derrière tout ça. Alors nous avons vu un monde béni, on peut dire, mais nous voyons maintenant un monde dominé par le péché et le mal. Un monde dominé par le péché et le mal. Toutes ces avances dont je viens de parler sont bien réelles, mais elles sont accompagnées par une aggravation dans le péché, une aggravation dans la rébellion contre Dieu et sa loi. Alors, quelles sont les preuves de cette aggravation? À quel titre puis-je dire cela? Verset 17, première chose. Caïn, et c'est un petit détail qu'on peut facilement louper, Caïn bâtit ensuite une ville. Vous dites, mais où est le mal dedans? Construire une ville. Alors, regardez bien le verset 12. Regardez bien le jugement de Dieu contre Caïn pour le meurtre de son frère. Tu seras errant et tremblant sur la terre. Tu vas errer sur la terre, avait dit Dieu. Et là, nous lisons Caïn bâtit ensuite une ville. Caïn était en train de dire à Dieu, bah, tant pis pour ton jugement, je ne vais pas errer, je vais construire une ville. Tu peux dire ce que tu veux, mais je m'en fiche de ton jugement. Et c'est encore une preuve de sa rébellion contre Dieu. Je vais fonder une ville, je vais m'installer, je vais poser mes bagages ici. Caïn continue à dire non à Dieu. Et les experts en hébreu, c'est intéressant, ils nous disent qu'une meilleure traduction de cette petite phrase serait « Il était en train de construire une ville » et cela suggère qu'il n'a pas pu réussir. Il voulait construire une ville, mais Dieu l'a empêché. Dieu a dit « Non, je t'avais dit non. » Dieu ne l'a pas permis. Et puis au verset 19, l'auteur fixe son attention sur Lémec, qui est la septième génération de la famille d'Adam, et ça c'est important dans le livre de la Genèse. Il fait ça pour montrer combien l'humanité s'éloigne de Dieu en cette génération. Il veut montrer toute la mesure du péché et de la rébellion. Alors déjà au verset 19, il y a une phrase qui attire notre attention. Lémec prit deux femmes. Et cette phrase vient quelques versets après le passage où l'auteur Moïse, qui est Moïse qui a écrit ça, il présente la monogamie comme la norme donnée par Dieu pour la famille. Et là, quelques versets plus tard, Lémec rejette la norme imposée par Dieu. Il prend deux femmes. Tant pis pour Dieu. Tant pis pour la loi de Dieu. Je vais faire ce que je veux. Et le texte semble nous dire des raisons pour prendre, ces raisons pour prendre deux femmes. Si on regarde les prénoms de ces femmes, l'une s'appelle Ada. Et ce prénom veut dire belle ou jolie. La deuxième s'appelle Tsila, qui vient du verbe teinter et fait référence à une voix douce, une voix séduisante. Et je pense que nous pouvons dire et voir dans ces détails que Lémec est un homme gouverné, non pas par le désir de plaire à Dieu, mais le désir de marcher selon la voie de Dieu, mais c'est un homme dominé par ses désirs sensuels. Elle est belle, je vais la prendre pour ma femme. Ah, elle a une voix séduisante, je vais la prendre elle aussi. Et tant pis pour la loi de Dieu. Il est dominé par ses désirs sensuels et sexuels. Dieu a dit une femme. Mais si tu vois une deuxième femme qui t'attire, qui te plaît, bah allez-y. Vas-y. Prends-la. Les mecs, dans ces versets, nous fait penser au verset dans Ecclésiaste 2. Où Salomon a écrit « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Si je veux, je prends. Si ça me plaît, je prends. Si j'ai envie, je fais. » Et puis, troisièmement, on a vu Caïn qui bâtit sa ville, Lémec qui prend deux femmes. Troisièmement, versets 23 et 24, là, on brosse un tableau bien sombre. Bien plus sombre. On a déjà vu l'invention de la musique, mais aussi nous voyons le développement de la poésie. Et la poésie peut être bien belle et édifiante, mais ce n'est pas le cas avec la poésie de Lémec. Son poème est sanglant. Son poème est arrogant. C'est un poème d'horreur. Regardez son orgueil d'abord. Il dit « Ma voix, ma parole, j'ai tué ma blessure, ma meurtrissure. » Il fait le fanfaron devant ses femmes. Il se vante d'avoir tué un jeune. Il continue dans cette famille de tueurs, la famille de Caïn. Mais il va beaucoup, beaucoup plus loin. Caïn, au verset 13 de ce chapitre, il parle de sa faute. Caïn, il ne se repent pas, mais il admet au moins d'avoir fait une faute. Il reconnaît ça. Et que fait Lémec ? Il admet une faute ? Non, Il revendique le meurtre d'un jeune et il en est fier. J'ai tué un homme, un jeune, il dit. Vous vous rappelez de ce que Adam et Ève ont fait quand ils ont péché? Ils se sont cachés. Regardez ce qui se passe 7 générations plus tard. Il se lève pour revendiquer son péché. Mais il ne voit pas comme un péché. Il ne se cache pas. Il n'a pas honte. Il veut que tous sachent. Pas question d'avoir honte. Et la violence de Lémec, c'est une violence disproportionnelle. Lui, il avait été blessé. Il parle d'une petite meurtrissure. Et comment est-ce qu'il se venge? Il tue un jeune, un garçon. Il prend la vie du jeune. Il croit que sa vie est plus importante que la vie des autres. Et il rejette les limites mises en place par Dieu. Dieu avait dit que la mort de Caïn sera vengée 7 fois. C'était un avertissement de la part de Dieu contre tous ceux qui pourraient avoir envie de faire mal à Caïn. Mais Lémec, dans son arrogance, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 24? Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Vous voyez son arrogance? Moi, je suis le plus important. Voici le père du terroriste, de ceux qui menacent par la violence. Et en faisant cela, il dit, je n'ai pas besoin de la protection divine. Je n'ai pas besoin de Dieu, je peux me protéger moi-même. Je suis redoutable, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis fort. Personne n'osera me faire mal. Et quelle différence entre l'attitude de Lémec et l'attitude de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a dit quand il a été blessé? Quand on lui a fait mal, quand on voulait le tuer, quand on était en train de le tuer, comment Jésus a-t-il réagi? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je me demande si Jésus pensait à Lémec dans Matthieu 18 quand il a dit qu'il faut être prêt à pardonner, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. Je me demande s'il pensait à ça. Mais Lémec, ah, tu m'as regardé, bam! Voilà le monde sans Dieu. Voilà ce qui se passe, voici ce qui se passe quand on fait ce que Caïn a fait au verset 16. Quand on sort de la présence de l'Éternel. Voilà le monde qui bannit Dieu de ses pensées. Voilà le monde permissif, le monde violent, le monde orgueilleux, le monde où on n'attache aucune valeur à la vie humaine. Dieu décrit pour nous ce qui se passe quand on exclut Dieu. On ne reconnaît pas que notre capacité de bâtir, d'inventer, de créer, de faire du bien, ça vient de Dieu. De Dieu, c'est un don de Dieu, mais on ne remercie pas Dieu. On ne fait rien pour la gloire de Dieu, on fait pour sa propre gloire. Au lieu de rendre grâce à Dieu pour ses dons, nous prenons les dons de la science, nous prenons les dons de l'intelligence, de la culture, du commerce, de la famille, et nous faisons de ces dons des dieux, des idoles. On se prosterne devant des dons et on oublie celui qui les a donnés. Et pire que ça, on se sert de ses dons pour montrer que celui à donner n'existe même pas. On se sert de la science pour montrer que Dieu n'existe pas. On se sert de notre intelligence pour montrer que Dieu n'existe pas. Et on oublie que Dieu nous a donné ces choses. Ah, que devons-nous apprendre de ce monde qui est à la fois créatif et brillant sur le plan culturel, industriel, mais pécheur et rebelle contre Dieu en même temps? Je propose 2 choses que nous devons voir dedans. La première chose, la culture, l'industrie, la créativité ne peuvent pas offrir de la rédemption. Être sophistiqué, être développé sur le plan culturel, industriel, commercial, ne veut pas dire qu'on est en bonne relation avec Dieu. La science est une bonne chose. La culture est une bonne chose. C'est bien d'encourager la recherche et la créativité. Mais ces choses-là ne peuvent jamais régler notre plus grand problème. Elles ne peuvent jamais changer le cœur humain. Elles peuvent rendre la vie plus agréable pour un certain temps, mais elles ne servent à rien pour nous réconcilier avec Dieu. On a réussi à fissonner l'atome. On a réussi à mettre un homme sur la lune. On a trouvé des remèdes pour de nombreuses maladies. On a inventé un appareil qui nous permet de parler et de voir quelqu'un à l'autre bout du monde. Mais on n'a jamais réussi à effacer notre péché. Jamais. Le cœur humain reste perdu dans son péché. On peut enlever le cœur de chair de quelqu'un, on peut en mettre un nouveau. Mais le cœur spirituel, on est incapable de changer. L'homme passe son temps à courir à droite et à gauche, essayant de combler sa vie des choses créées, de bonnes choses. Mais il loupe complètement la chose la plus importante, son Créateur, son Dieu, son juge. Et peut-être que quelqu'un ici, vous êtes un très bon papa, vous êtes une très bonne maman, vous travaillez bien, vous êtes un très bon voisin, vous êtes gentil, vous êtes généreux, vous avez beaucoup de créativité. Vous êtes bien doué dans plusieurs domaines. Mais la sombre réalité de votre vie, c'est que vous êtes éloigné de Dieu. Vous pouvez être brillant. À quoi ça sert si vous passez votre vie et vous mourrez éloigné de Dieu? Dieu est en option dans votre vie. Et si c'est le cas, vos talents, tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous allez accomplir, ne sert à rien. Jésus vous dit, il a dit en Marc 8, 36, « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Gagner le monde entier, mais vous perdez votre âme. Et la deuxième chose que ces versets nous montrent, c'est qu'en des milliers d'années, depuis la vie de Caïn et de Lémec, le cœur humain n'a pas changé. La société n'a pas changé. Nous vivons encore dans une société où Dieu est largement exclu. Nous reconnaissons bien cette société permissive qui se moque de ce que Dieu dit Dieu. Sur le mariage, sur la sexualité, on se moque de ça. On fait ce qu'on veut. Nous expérimentons quotidiennement une société violente. J'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Vous l'avez vu même hier. Nous voyons un monde où la vie humaine ne vaut pas grand-chose. Oui, c'est une société qui a fait énormément de progrès. Mais est-ce qu'elle rend gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a donné, a fait? Le monde de Lémec et le nôtre ne sont pas si différents que ça. Et ces versets nous aident à mieux comprendre notre monde. Ça fait des millénaires qu'il est comme ça. Des millénaires. Et à ce moment-là, dans l'histoire de l'humanité, on aurait pu être tenté de dire, à l'époque de Lémec, mais où était Dieu? Dieu avait promis, n'est-ce pas, d'envoyer un sauveur. Dieu avait promis en Genèse 3,15 que la descendance de la femme écraserait la tête de Satan, il vaincrait le mal. On n'a pas l'impression que le mal soit vaincu. Dieu l'avait promis, mais le mal semble prospérer. La descendance de Satan semble dominer. Où est Dieu? A-t-il oublié sa promesse? Ne pouvait-il pas tenir parole? Et pour répondre à ces questions, nous voyons, pour terminer, la promesse de Dieu accomplie. Et c'est dans les versets 25 à 26. D'abord, verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela Seth. Car elle dit, « Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. » Et l'auteur veut montrer ici que malgré les apparences, malgré le mal qui dominait, Dieu était à l'œuvre. Dieu continuait à faire grâce. Le projet de Dieu, le plan de rédemption ne serait pas contrecarré par le mal de l'homme. Et Ève, elle était consciente de ce plan. Elle se souvient de la promesse de Dieu. Nous reconnaissons, j'espère, vous reconnaissez, j'espère, ce mot « descendance ». La première fois que nous voyons le mot « descendance » dans la Bible, c'est dans la promesse de Dieu en Genèse 3:15. La descendance de la femme écrasera la tête de Satan. Dieu avait promis un sauveur, un messie. Et Ève, elle avait espéré que ce serait Caïn ou même Abel. Mais Caïn était un tueur. Et Abel était mort. Caïn s'était tourné le dos à Dieu. Alors il faut une autre descendance. Et dans sa grâce, Dieu le pourvoit. Et le nom de Seth veut dire accordé ou nommé. Seth est nommé par Dieu pour être père de la ligne élue. De la ligne de Seth viendrait celui qui écraserait la tête de Satan. Le projet de Dieu n'a pas été contrecarré. Et le passage que nous avons lu dans Luc 3, avec tous les noms, confirme l'accomplissement de cette promesse. Dernier verset de Luc 3, « Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. » Le mal, la violence, la haine, la rébellion, toutes ces choses-là ne peuvent pas contrecarrer le plan éternel de Dieu. Malgré les apparences, et c'est souvent ça, malgré les apparences, Dieu était à l'œuvre. Dieu agissait pour accomplir ses promesses. Il agit pour la gloire, sa gloire et pour le bien de son peuple. Et à maintes reprises, nous voyons dans la Bible Dieu à l'œuvre malgré les apparences. Vendredi soir, pour les jeunes, le groupe d'ados, on a étudié la vie de Joseph. Malgré tout ce qui se passait, tout ce qui passait mal pour Joseph, Dieu était à l'œuvre. Mais surtout, c'est sur la croix. À la croix, le mal semblait dominer. Le Fils de Dieu, cruellement battu, maltraité, cloué à la croix par des gens violents, iniques, rebelles, incrédules, tout comme les mecs. Où était Dieu? Dieu était en train d'accomplir cette promesse de Genèse 3:15, d'écraser la tête de Satan. Le descendant de la femme était en train d'écraser la tête de Satan, malgré les apparences. Faisons confiance à Dieu, mes amis. Faisons confiance à Dieu. Ne perdons pas l'espoir. Malgré tout ce que vous voyez, Dieu est à l'œuvre pour accomplir sa volonté. Dans Romains 5, verset 20, Paul écrit, « Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. » Beaucoup de péchés, mais encore plus de grâce. C'est ce qui se passe ici. Et c'est ce qui se passe quand Dieu fait... Qu'est-ce qui se passe quand Dieu fait grâce? Verset 26. C'est peut-être un des versets les plus encourageants de la Bible. Malgré tout, les gens commencent à invoquer le nom de l'Éternel. Seth et ses enfants étaient pionniers. On a déjà vu des pionniers. Mais eux, ils étaient pionniers de la louange, de l'adoration régulière et habituelle de Dieu. Malgré ce qui se passait autour d'eux, malgré l'hostilité, malgré la pression de se conformer au monde, Seth et ses enfants croient en Dieu. Ils servent Dieu. Ils mettent Dieu au centre de leur vie. Ils reconnaissent leurs besoins de Dieu. Le prénom Enosh parle de la fragilité de la vie de l'homme. On a besoin de Dieu, on est tellement fragile. Et on voit l'humilité de Seth devant Dieu en donnant ce nom à son fils. Il reconnaît sa dépendance. Et le monde autour refuse de reconnaître son péché. Le monde autour ne demande pas à Dieu de lui pardonner. Le monde ne cherche pas la grâce et la miséricorde de Dieu, ne met pas sa confiance en la promesse de Dieu. Mais Seth et sa famille invoquent le nom de l'Éternel. Et quel encouragement pour nous qui vivons dans un tel monde. Quel encouragement pour nous à aimer le Seigneur, à servir le Seigneur, à suivre le Seigneur, à vivre pour lui, malgré l'hostilité contre Dieu. Tenez ferme contre le tsunami de péché, d'hostilité, de ridicule, de moquerie. Invoquez le nom de l'Éternel. Vous êtes le seul à le faire dans votre famille. Vous êtes entouré d'autres membres de la famille qui se moquent de Dieu, tout comme les mecs et les autres. Qu'est-ce que vous faites? Vous invoquez le nom de l'Éternel. Même si le monde vous trouve bizarre, continuez à invoquer le nom de l'Éternel. Et le monde qui ose nous dire que nous sommes bizarres, regardez ce monde, nous venons de le voir. Est-ce que ce monde a le droit de nous dire que nous sommes bizarres? Ce monde violent? Continuons à invoquer le nom de l'Éternel. Ne soyons pas intimidés par ce monde hostile. Continuons à annoncer sa gloire, à annoncer sa grâce. Dans un monde pécheur, continuons à invoquer le nom de celui qui a dit « J'ai tant aimé ce monde, que j'ai donné mon Fils unique pour sauver ce monde. » Peut-être que je parle à quelqu'un qui n'a jamais invoqué le nom de l'Éternel. Vous êtes encore dans le monde de Caïn et de Lémec. Encore dans votre péché. Et si vous n'avez jamais invoqué le nom de l'Éternel, est-ce que c'est bien là où vous voulez rester? Vous voulez rester dans le monde de Caïn et de Lémec? Ce monde violent, inique, pécheur? Écoutez les paroles du prophète Ésaïe et de l'apôtre Paul. D'abord, le prophète Ésaïe. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. Invoquez-le. Et puis l'apôtre Paul. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ésaïe vous dit, invoquez le nom de l'Éternel pendant qu'il est proche. Paul dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Seth et sa famille ont dû invoquer le nom de l'Éternel pour être sauvés de leur péché. Ils ont reconnu leur péché. Ils ont invoqué ce nom. Et Dieu les a sauvés. Et il le fera pour vous aussi. Même ce matin, dans le silence de cette salle, vous pouvez invoquer le nom de l'Éternel. Sauve-moi. sauve-moi de mon péché. Il est prêt. Il est prêt. Et il vous sauvera. Là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Amen. Amen.